Vous êtes sur RTL.
RTL Midi,
Philippe Robuchon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Midi. À Tokyo, deuxième médaille française aux Jeux Olympiques. Elle est en argent pour la judokate Amandine Buchard en moins de 52 kilos. On va rejoindre dans une minute Isabelle Langer au Japon. On croise les doigts car une troisième médaille est à portée d'épée dans les prochaines minutes pour Romain Canon puisqu'il est qualifié déjà pour la demi-finale. L'équipe de France de foot, quant à elle, a gagné sur le fil. Elle a battu l'Afrique du Sud 4 buts à 3 grâce notamment à un triplé de Gignac. En Polynésie, Emmanuel Macron lance un nouvel appel à la vaccination. Au lendemain des manifs qui ont réuni 160 000 personnes dans toute la France, il demande aux antivax de bien réfléchir. La liberté où je ne dois rien à personne, ça n'existe pas, a dit le chef de l'État. Nous irons dans l'Aude prendre des nouvelles de l'incendie qui a ravagé plus de 850 hectares. Et puis Dieu merci, les vacances, c'est aussi de purs moments de bonheur, comme flâner sur un marché de Provence. On ira à Aubagne, près de Marseille. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
À 1h moins le quart, chemin d'écrivain, où nous emmenez-vous ?
En Charente, dans la maison de Maria Cazares, avec Anne Plantagenet qui signe un magnifique portrait de l'actrice.
À tout à l'heure. Le temps. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
C'est très très instable, hein, sauf dans le sud-est.
Oui, alors dans le sud-est, il n'y aura pas d'averse en fait aujourd'hui. C'est ce qui fera la différence avec les autres régions. C'est le cas pour toutes les régions qui bordent la Méditerranée. Donc ça va jusqu'au Languedoc et au Roussillon. Ça remonte aussi vers le sud du Massif central et le sud des Alpes. Et partout ailleurs, tôt ou tard, on aura une averse. Alors c'est déjà le cas assez fréquemment depuis ce matin entre le nord-ouest, le nord et le bassin parisien. Des averses qui vont se décaler vers le Grand Est, donc la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté seront touchées cet après-midi. Dans tous les cas, les averses seront toujours un petit peu plus soutenues et un petit peu plus fréquentes sur la moitié nord. Les températures, 20 degrés à Brest au plus bas, 33 à Ajaccio pour la plus élevée, il fera 23 degrés à Lille et Paris, 24 à Bordeaux, 26 degrés à Strasbourg et Toulouse et 28 degrés à Lyon.
Merci Valérie.
RTL à Tokyo.
Tout de suite donc, le Japon, médaille de bronze hier pour Luca Meredze. Et bien après ce bronze, le judo Isabelle Langer apporte une deuxième médaille à la France. Elle est en argent grâce, je le disais, à Amandine Buchard.
Et c'est une médaille, Philippe, d'argent qui vaut de l'or, même si pour le moment Amandine Buchard n'est pas capable de l'apprécier car la compétitrice n'était venue à Tokyo que pour une seule chose, devenir championne olympique. En larmes devant nous il y a quelques minutes, eh bien Amandine Buchard était bien évidemment déçue après cette finale perdue au Golden Score sur Ippon face à la favorite, la grande dame de sa catégorie des moins de 52 kilos, la japonaise Uta Abe, déçue aussi et surtout parce qu'elle s'était fait une promesse, honorer la mémoire de son papa tragiquement disparu en 2008, décédé d'une embolie pulmonaire à la suite d'une blessure anodine contractée sur les tatamis. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Amandine Buchard au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je pense à lui chacun de mes moments, entre tous mes combats, avant mes combats, parfois pendant. Et je suis triste parce que j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Moi, je repars avec une médaille d'argent, mais ça m'embête parce que je voulais réaliser ce rêve pour moi et pour lui. Je me suis sentie impuissante parce que j'étais verrouillée au niveau des côtes. Je ne pouvais même pas avoir l'opportunité de tourner ou de me renverser. Donc ouais, c'est frustrant parce que ces 20 secondes, c'est les 20 secondes les plus longues de ma vie où on se sent impuissant et où on voit son rêve s'échapper. Ouais, c'est dur.
Amandine Buchard, c'est l'histoire d'une jeune femme de 26 ans que la vie n'a pas épargnée, qui a failli raccrocher le kimono en 2016 après une grave dépression. Longtemps humiliée par son poids, elle combattait dans la première partie de sa carrière en moins de 48 kilos. La licenciée du Red Star Club de Champigny-sur-Marne s'infligeait des régimes draconiens qui lui ont usé la santé. Accompagnée comme Teddy Riner d'ailleurs par la psychologue Myriam Salmi, Amandine Buchard a pris la décision de monter de catégorie pour moins souffrir. Paris gagnant, troisième des mondiaux en 2018, vice-championne du monde en 2019. La voilà vice-championne olympique. Il y a un mois, Amandine Buchard avait aussi fait son coming out médiatique dans un documentaire qui a certainement libéré cette jeune femme, reniée par sa maman depuis qu'elle a appris que sa fille était homosexuelle il y a quelques années. Nul doute qu'une fois qu'Amandine aura séché ses larmes, digéré cette défaite en finale, elle mesurera tout ce chemin parcouru. D'ailleurs, elle nous a dit il y a quelques minutes, j'ai laissé le titre olympique à la japonaise Uta Abe à Tokyo, eh bien j'aurai le mien à Paris en 2024.
Isabelle Langer en direct de Tokyo. Alors l'autre sport pourvoyeur de médailles pour la France en général, c'est l'escrime. Mais la journée a mal commencé tout à l'heure avec l'élimination d'Yannick Borel et Isaora Tibus. Heureusement est arrivé Romain Canon, l'épéiste de 24 ans. Il vient d'entamer sa demi-finale, Nicolas Burnand.
Et oui, c'est l'invité surprise de cette épreuve, le français face à l'ukrainien Igor Raislin, le numéro 3 mondial. Et ça redonne le sourire au clan tricolore. Il représente les derniers espoirs de médaille pour les épéistes tricolores. Seconde période déjà, 10 points pour Romain Cannon, 9 pour son adversaire ukrainien. Romain Cannon, c'est le benjamin de cette sélection tricolore, vice-champion de France. Il participe à ses premiers jeux ici à Tokyo. Le jeune Alsacien devait normalement participer à l'épreuve par équipe de ces jeux, mais il était remplacé un escrimeur manquant pour l'épreuve individuelle. Et le voici donc en demi-finale pour disputer sa place, peut-être pour une médaille.
Nicolas, bien évidemment, vous nous rappelez en cas de victoire, même si Cannon ne gagne pas, vous nous rappelez pour nous donner évidemment le résultat. Avec vous, Benjamin Boucrige, on voit maintenant ce qu'il faut retenir de cette matinée à Tokyo.
En football, la France empoche sa première victoire dans ces Jeux. Malgré un match compliqué, elle bat l'Afrique du Sud 4-3. Triplé d'André-Pierre Gignac et but de TJ Savanier dans les toutes dernières secondes. Les Bleus sont donc provisoirement 3e de leur groupe. En tennis, malheureusement, ce n'est pas aussi glorieux. Plusieurs déceptions ce matin avec 3 sorties dès le premier tour. Chez les hommes, Gaël Monfils, 18e mondial, est éliminé par le Biélorusse Ilya Ivashka, 66e. Chez les femmes, Caroline Garcia est sortie par la Croate Donna Vekic et Alizé Cornet battue par la Tchèque Karolina Pliskova. Seul point positif en tennis, c'est Fiona Ferro, qualifié pour le deuxième tour. Et puis un petit mot de voile, puisque la championne olympique en titre, la Rochelaise Charline Picon, est en tête en planche RSX pour la première journée de compétition.
Et qu'est-ce qui est prévu cet après-midi, Benjamin ?
Un beau programme nous attend avec les handballeuses françaises qui rencontrent la Hongrie pour leur premier match à 14h30. Et surtout, les basketteurs français commencent très fort en affrontant les champions olympiques en titre, les États-Unis de Kevin Durant et Devin Booker. Coup d'envoi 14h.
Merci Benjamin, grand fan de basket. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième journée de compétition au JO de Tokyo. On garde un œil évidemment sur l'escrime et la possible qualification pour la finale du français Romain Cannon. 12h37, Emmanuel Macron a donc lancé sa visite en Polynésie par un appel à la vaccination ce matin. En visitant le principal hôpital de Tahiti, il s'est félicité que la France se prépare à passer dans les prochaines heures le cap des 40 millions de primo-vaccinés. Au lendemain des manifestations qui ont rassemblé partout en France 160 000 opposants au pass sanitaire ou à la vaccination, le chef de l'État s'est adressé à eux. Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, mais la liberté où je ne dois rien à personne, ça n'existe pas, a martelé le président, qui ajoute ceci.
Je respecte les doutes. Je pense qu'aux doutes, il faut répondre par la patience, la conviction, l'accompagnement, le respect. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire.
Le président Macron au micro de l'envoyé spécial de RTL en Polynésie, Jacques Serret, a noté qu'à l'issue des manifs d'hier, 71 personnes ont été arrêtées, dont 24 à Paris, 27 policiers et 2 gendarmes mobiles ont été blessés. Cette nuit, les sénateurs ont profondément modifié le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire voulu par le gouvernement. Ils refusent que ce pass s'applique aux mineurs, dans les centres commerciaux ou en terrasse. Sénateurs et députés s'apprêtent maintenant à se réunir cet après-midi en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis. On va tout de suite retourner à Tokyo. Nicolas Burnand, un Français en finale de l'épée.
Eh oui, ça y est, c'est fait. Romain Cannon rejoint la finale de l'épée en individuel. Il bat l'Ukrainien Igor Raislin, le numéro 3 mondial. 15 points à 10. Le licencié de Colmar va donc défendre sa place pour une nouvelle médaille olympique pour les tricolores.
Ce serait la troisième. Merci Nicolas Burnand en direct de Tokyo. 1h20 sur RTL. Dans un instant, on va dans l'Aude prendre des nouvelles de l'incendie qui a ravagé plus de 800 hectares.
RTL Midi. RTL Midi, Philippe Robuchon.
850 hectares de végétation partie en fumée dans la montagne d'Alaric. C'est le bilan provisoire de l'énorme incendie qui s'est déclaré hier dans l'Aude entre Carcassonne et Narbonne. Ce matin, le feu était contenu, comme disent les pompiers, mais le vent et la chaleur compliquent le travail. Benjamin Pelsi, vous êtes à Moux, hein, pour RTL, où les hommes du feu sont encore à pied d'œuvre.
Oui, ici, les conditions sont toujours très défavorables pour les pompiers. La chaleur commence à monter, mais c'est surtout le vent qui inquiète les 800 soldats du feu, comme l'explique le lieutenant Philippe Miramont.
Actuellement, le vent, malheureusement, n'a toujours pas faibli. Il est estimé à une force de 50 km/h pour la journée, voire pour les jours suivants. Nos craintes, ce sont des reprises sur certaines lisières avec une difficulté de cheminement pour les moyens terrestres.
D'importants moyens sont toujours déployés sur place, des pompiers qui viennent de tous les départements d'Occitanie qui ne pourront donc pas intervenir si d'autres incendies d'importance se déclarent. Et des départs de feu, ce n'est pas ce qui manque en ce moment.
Oui, depuis hier, il y a eu une douzaine de départs de feu.
Joëlle Gras, la directrice de cabinet du préfet de l'Aude.
On appelle la vigilance de chacun. C'est des gestes simples. Pensez à ne pas jeter les mégots par la fenêtre. Surtout si vous êtes témoin d'un départ de feu, appelez tout de suite le 18 et surtout ne pas venir sur des sites comme ça. Voilà, ce n'est pas un spectacle, ne pas venir gêner l'activité des secours.
À Moux, les pompiers espèrent fixer le feu d'ici la fin de la journée.
Benjamin Pelsi dans l'Aude pour RTL. En Belgique, de violents orages ont provoqué d'importants dégâts hier soir dans la province de Namur. Et ce, 10 jours après les inondations qui ont fait 36 morts dans ce pays. Heureusement, cette fois-ci, aucune victime à déplorer. Bonjour Sarah Loubacouche.
Bonjour Philippe.
Alors avec vous, on fait un point sur vos conditions de circulation. Nettement moins de monde qu'hier, évidemment. C'est tout de même orange dans le sud-est. Et donc, c'est là qu'il y a les principales difficultés.
Mais c'est compliqué sur l'A7 à Marseille. Déjà, si vous comptez remonter en direction de Lyon, un accident à vous signaler aux abords de la cité phocéenne qui complique votre trajet. Puis, si vous êtes dans le sens de la descente de l'A7, plusieurs minutes d'attente à Lens. Provence. Pour vous ensuite qui continuez peut-être sur la 8, patience à la phare Les Oliviers. Le trafic se densifie. On vous souhaite donc bonne route à tous.
RTL Midi.
Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici
accompagné par Gilbert Beco, évidemment, direction la Provence. On part pour Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol. En ce 25 juillet, on avait envie de vous offrir un peu de sud, un peu de chaleur, un peu de couleur. On vous emmène sur un marché, le marché du Cours Voltaire, Samia Belbachir.
Un marché où se mêlent locaux et touristes. Joël et Didier viennent de Nancy.
On a regardé sur Internet, on a vu qu'il y avait un marché et on s'est dit, bah tiens, on va aller regarder un petit peu ce qui s'y passe.
Pour le repas de midi, alors on a prévu de la viande qu'on a déjà et l'idée c'est de compléter avec une petite salade fraîche, puis se laisser vivre avec un bon petit rosé de Provence.
La star du marché, c'est la tomate présente dans tous les menus ce midi.
Des petites tomates fraîches de Provence, là, avec une petite mozza coupée en petits morceaux et voilà, c'est tout, hein, très frais.
À midi, moi, c'est salade tomate. Avec des œufs durs, salade tomate, avec des petits fragments de parmesan dessus, avec une bonne huile d'olive du pays.
Et pour accompagner ces belles salades de tomates, pourquoi pas du poisson, Samy de la poissonnerie La Royale.
On a les beaux loups de ligne et la dorade de ligne de la pêche de cette nuit.
De préférence grillés en ce moment.
Alors juste un filet d'huile d'olive et jus de citron, uniquement salé poivré. Le plus naturellement possible.
Et pour le dessert, un bon melon mûri sous le soleil de Provence.
Le matin au marché.
Ah là là, il suffit de fermer les yeux et on y est au marché de Provence. Merci Samia Belbachir, merci Gilbert Beco. On était à Aubagne il y a un instant. Dans un instant sur RTL, chemin d'écrivain avec Bernard Lehu.
RTL Midi, Philippe Robuchon. Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour, ce chemin cette semaine nous conduit vers une maison, celle de Maria Cazares. 25 ans après sa mort, Maria Cazares reste l'une des plus illustres comédiennes du théâtre français et le grand amour d'Albert Camus. Maria Cazares possédait un ancien logis seigneurial en Charente, entre Poitiers et Angoulême, dans la petite commune d'Alou. C'est là qu'elle s'est éteinte le 22 novembre 1996. Elle est enterrée dans le cimetière tout proche. L'écrivaine Anne Plantagenet a publié en début d'année un superbe portrait de Maria Cazares, titré L'Unique, et nous avons eu le privilège de visiter en sa compagnie le domaine de la Vergne, acheté en 1961 par Maria Cazares. Suivez notre guide, Anne Plantagenet.
On sait aujourd'hui comment ça s'est passé, on sait que c'est une personne qu'elle connaissait à Paris, qui venait la voir au théâtre et qui ensuite est devenue maire de la petite commune d'Alou, qui lui a parlé de ce domaine, cette maison qui était à vendre à cette époque. Donc elle est venue voir un jour. Au départ, elle cherchait une maison plutôt au bord de la mer et plutôt en Bretagne. Et elle a eu un vrai coup de cœur pour ce domaine. Je pense que ce lieu lui a beaucoup rappelé sa Galice natale. Le paysage, comme vous le voyez, c'est très vert. C'est une région où il pleut, comme en Galice. Et la maison en elle-même, le domaine, elle ressemble. Cette maison ressemble aux pazzos galiciens, qui sont ces maisons un peu brutes, des murs épais pour lutter contre le froid. Sans doute, il y a eu de ça. Quand elle a trouvé cette maison, elle avait perdu ses maisons d'enfance auxquelles elle était très attachée. Et quand elle a découvert cette maison, elle était exilée en France depuis 1936. Donc elle est arrivée ici, à Loup, plus de 35 ans plus tard. Alors le domaine en lui-même s'appelle Lavergne. La maison de Maria Cazares, c'est Lavergne. Le village à côté, c'est Alou. Et Lavergne, c'est un arbre typique de la région. Nous entrons dans la maison Maria Cazares. J'ai eu la chance de séjourner dans cette maison. Et j'avais la clé, j'avais une grosse clé. Et je fermais la clé tous les soirs. Je fermais la grosse porte.
Alors nous voici au salon. Et avec le... c'est l'armoire au trésor, non? Qu'est-ce que c'est que ce buffet?
C'est un buffet merveilleux, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, on l'ouvre.
Oh là, plein de vieux albums. Oui.
De vieux albums qui contiennent non pas exclusivement des photos, mais des articles de presse. Et vous avez toute la carrière de Maria Cazares depuis ses premiers pas.
Incroyable.
Sur une scène de théâtre.
Découpé, voilà. Collé, daté, ça commence exactement. En 1943, oui, le tout début de
et
sa carrière.
Des photos, pareil, exceptionnelles. On la voit, là, vous avez une photo d'elle quand elle est premier prix de tragédie, en 1942, donc au conservatoire. C'est très rare, enfin, cette photo-là, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et vous pouvez voir à quel point Maria Cazares, dès ses débuts au théâtre, décembre 1942, il y a déjà des articles de presse énormément. On la voit chez elle, on la voit sur son balcon rue de Vaugirard, on la voit avec son petit chien blanc qu'elle a récupéré du tournage des Dames du Bois de Boulogne, on la voit danser avec des castagnettes, on la met en scène en fait, vous voyez.
Et alors tout ça, ça a été un matériau pour vous formidable, évidemment, j'imagine.
Ah oui, ça a été incroyable de pouvoir avoir accès à ces documents, de pouvoir les feuilleter, m'y plonger. J'en ai cité beaucoup dans le livre, c'est assez formidable. Il y a en plus des photos qui permettent de voir l'évolution. L'évolution physique. Oui,
on
alors
la voit
là,
extraordinaire, une photo où elle est entre Camus et Jean-Louis Barrault.
Voilà, les photos célèbres des répétitions de l'état de siège.
1948.
Exactement.
On remet dans son armoire, son buffet, ce précieux album.
Qui est bien lourd, hein, qui pèse.
Le poids de toute une vie.
Le poids de toute une vie, exactement, de plus de 50 ans de théâtre. Cazares vit.
Il est intitulé sur la tranche, voilà, Cazares vit.
Ce beau buffet.
Et donc, elle travaillait ici, elle répétait ses textes. Ça se passait où? À l'extérieur? À l'intérieur?
Alors, en fonction de la météo, j'ai envie de vous dire, Maria Cazares répétait ses rôles, travaillait ses rôles soit à l'intérieur de la maison, donc essentiellement dans la cuisine, qu'elle avait beaucoup investi, cette grande cuisine avec son poêle. Où elle écrivait dans des carnets, elle apprenait ses rôles en les mettant par écrit, donc en écrivant. Voilà, c'est dans le fonds Maria Cazares de la BNF, on peut avoir accès à ces carnets que j'ai eu la chance de consulter. Et au milieu des tirades qu'elle a recopiées, il y a aussi éventuellement une liste de courses, des choses à faire dans la journée, etc. etc. Donc c'est très très mélangé. Et il y avait dans le domaine ici, dans sa maison, l'extérieur bien sûr qui est très beau, très grand. Et quand elle pouvait travailler dehors, elle le faisait. Et il y a notamment donc au bord de la Charente, elle apprenait aussi ses rôles en marchant. Elle avait besoin de voir comment marchaient ses personnages pour les investir. Pour un rôle notamment, elle avait dit je ne sais pas, je ne peux pas connaître cette femme tant que je ne sais pas comment elle marche. C'est important pour elle. Et puis il y a ce très beau mur qui fait partie des fortifications anciennes et à l'origine de cette maison, surnommé le mur d'Avignon. C'était sa cour d'honneur à elle, et elle aimait visiblement répéter aussi devant ce mur l'été.
On va où là maintenant, Anne Plantagenet?
On monte au premier étage dans les appartements, on va dire, dans la chambre de Maria Cazares.
Et vous avez eu le privilège, Anne Plantagenet, donc, de dormir là, dans cette chambre.
Ah oui, c'est une chance extraordinaire d'avoir été accueillie aussi généreusement et gentiment dans cette maison et d'avoir pu dormir dans cette chambre qui était celle de Maria Cazares. La chambre d'un côté, le bureau de l'autre. J'ai travaillé, écrit sur son secrétaire. Il y a une très jolie photo où on la voit jeune et très élégante devant ce secrétaire qui est couvert de papiers, de livres, de crayons.
Et donc vous avez écrit certains passages de votre livre sur le bureau de Maria Cazares. C'est une espèce de mise en abîme assez inouïe.
Et je sais très bien ce que j'ai écrit ici quand j'étais dans cette maison et dans cette pièce précisément. J'ai écrit le chapitre dans lequel Maria Cazares et Albert Camus se retrouvent après 4 ans de séparation. Nous sommes le 6 juin 1948 sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Albert Camus se rend chez André Gide. Maria Cazares va au théâtre avec une amie. Elle porte une petite robe couleur rouille, elle le dit dans la correspondance. Ils se croisent par hasard, si on croit au hasard. À partir de là, ils ne se quitteront jamais plus.
Camus et Cazares, pourquoi ces deux-là se sont reconnus et se sont aimés?
Alors apparemment, ils se sont croisés une première fois en 1942 parce que Camus serait venu voir jouer Maria Cazares dans sa toute première apparition sur scène au Théâtre des Mathurins en 1942. Ils auraient même été présentés, mais elle ne s'en souvient pas. Lui, je ne sais pas, mais elle le dit, elle ne se souvient pas. En revanche, elle se souvient très bien de la première fois qu'elle le repère, c'est en 1944. À une représentation privée sous l'occupation, où il y a un peu le tout Paris, des intellectuels parisiens qui sont là et des artistes. Elle est toute jeune actrice. Et dans cette pièce, qui est une pièce de Picasso, il y a un homme qu'elle aperçoit comme une silhouette près de la fenêtre et qui tient le brigadier, c'est-à-dire le bâton avec lequel on tape les coups au théâtre et qui énonce les changements de scène, les changements de décor. C'est une pièce surréaliste, hein, c'est Picasso, c'est un peu ni queue ni tête, on va dire. D'ailleurs, ça s'appelle « Le diable attrapé par la queue ». Et elle repère cet homme, sa silhouette et sa voix qu'elle entend, qui lui plaît beaucoup. Mais ils ne sont pas présentés ce soir-là. Et quelques temps plus tard, mais très rapidement après, Marcel Héran, le patron du Théâtre des Mathurins, lui fait lire une pièce d'un jeune auteur qui s'appelle Albert Camus, qu'elle ne connaît pas. Elle l'a pas lu à ce moment-là. Il a déjà publié L'étranger et Le mythe de Sisyphe, mais elle ne le connaît pas. Et ils vont se rencontrer pour les répétitions de cette pièce. Le malentendu, ils se rencontrent sur un malentendu. On va faire cette mauvaise blague. Et donc, c'est au cours de la première lecture qu'il va se passer quelque chose. La première lecture où Camus vient lire aux comédiens sa pièce. Il est très nerveux. Il a un trac fou, il bégaye, il transpire, il n'est pas très à l'aise. Et elle le fixe sans arrêt et elle s'amuse à le déstabiliser parce que cet homme lui plaît et qu'elle a envie effectivement de le déranger. Et bon, et c'est là que ça commence.
J'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir. Celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait.
Puis après, ça va aller très vite. Alors... oui, ils étaient sans doute un moment attirés l'un par l'autre pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que Maria Cazares était très jolie. Elle avait une beauté très atypique. Elle avait énormément de piquant et de charme, on va dire. Et elle ne faisait pas dans ce milieu parisien intellectuel et assez entre soi. Elle avait pas les codes. Elle détonnait quand même un petit peu dans ce milieu. Et Camus aussi, comme on sait. Donc tous les deux étaient un peu des exilés dans l'âme, l'un et l'autre. Alors ça, je pense que ça attire. Aussi. Et puis après, il est aussi tombé amoureux de la comédienne, c'est-à-dire que il a aimé la voir sur scène, il a aimé écrire des pièces pour elle. Elle a quand même créé 3 pièces de Camus, dont effectivement 2 ont vraiment été écrites pour elle, pour le personnage féminin. Hein, donc Les Justes, qui a été un énorme succès, et L'État de siège. Elle était très inspirante, je pense, pour lui, très, très intense. Et ils se rejoignaient sur énormément de plans, ils avaient énormément de points communs.
Oh, je crois que tous les deux, on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire... ou destin, ou je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur.
On va finir en revenant ici, à ce domaine de Lavergne. Bah, elle, l'éternelle étrangère, l'exilée perpétuelle, évidemment, a toujours été très attachée à des lieux. Il y a l'appartement à Paris, de la rue de Vaugirard, et puis il y a ici ce domaine de Lavergne, avec quelque chose de très symbolique, de très beau, c'est que, d'une certaine manière, elle trouve un toit. On retrouve Camus aussi sous ce toit, d'une certaine façon.
Oui, alors effectivement, elle est contactée par Catherine Camus,
la fille d'Albert Camus.
La fille d'Albert Camus. Et elles vont nouer un lien, toutes les deux, c'est s'écrire, se rencontrer. Et c'est vrai que c'est Maria Cazares qui, à ce moment-là, a en sa possession toutes les lettres de Camus et les siennes. Donc elle avait la totalité de la correspondance. Et Catherine Camus a proposé de la lui racheter. Et Maria Cazares lui a vendu cette correspondance en se disant qu'effectivement, elle était la bonne personne et qu'elle saurait quoi en faire le moment venu. Le moment venu a été beaucoup plus tard. Catherine Camus a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est très bien, je trouve, qu'elle ait pris ce temps de publier cette correspondance. Mais quand elle l'a achetée à Maria Cazares, ça a permis à Maria Cazares de continuer des travaux dans cette maison qui, vous voyez, est quand même assez grande et qui demande un entretien permanent. Et notamment... De restaurer la toiture de cette maison. Donc c'est très beau symboliquement de se dire que les lettres et l'amour de Camus lui a permis d'avoir un toit. Elle qui était exilée depuis si longtemps, elle qui avait perdu les maisons de son enfance. Au fond, ça a été son seul bien, sa seule propriété en France, qu'elle aimait tellement cet endroit qu'elle a demandé à y être enterrée dans le cimetière d'à côté. Et elle a légué la maison à la commune.
Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Je veux savoir ce qui me reste.
Maria Cazares dans Les Enfants du Paradis, le chef-d'œuvre de Marcel Carné. C'était le chemin d'écrivain d'Anne Plantagenet au domaine de Lavergne, devenu aujourd'hui Maison Maria Cazares. Le livre d'Anne Plantagenet, l'unique, est publié chez Stock. Quant à la maison, elle abrite désormais un centre culturel qui accueille les artistes et organise chaque été un festival où théâtre et gastronomie sont à l'honneur. L'édition 2021 s'ouvre justement demain. Vous trouverez le programme complet sur le site de la Maison Maria Cazares. Dimanche prochain, nous irons à Saint-Malo avec Agnès Martin-Lugan. Bel après-midi sur RTL.
Merci Bernard, c'est noté, à dimanche prochain. Dans un instant sur RTL, le rappel des titres, il est 12h58.
RTL midi.
Il est 13h.
RTL midi.
Philippe Robuchon.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité, d'abord à Tokyo, une deuxième médaille française ce matin, médaille d'argent pour Amandine Buchard en moins de 52 kilos. Une troisième médaille tricolore est d'ores et déjà assurée en escrime puisque cet après-midi, Romain Cannon dispute la finale de l'épée à 14h15 face au champion du monde en titre, le Hongrois Sziklosi. L'incendie dans l'Aude entre Narbonne et Carcassonne a déjà détruit au moins 850 hectares sur les communes de Moux et Foncouverte. Les pompiers, gênés par le vent et la chaleur, reste évidemment mobilisé sur place. L'avertissement d'Emmanuel Macron aux anti-vax, la liberté où je ne dois rien à personne, ça n'existe pas, a dit le chef de l'État ce matin à Tahiti. Cet après-midi en métropole, au lendemain des manifestations qui ont réuni 160 000 personnes, sénateurs et députés se réunissent pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi sanitaire. Le temps, Valérie Quintin, les températures, ça va, c'est l'été. Pour ce qui est du ciel, c'est moins ça.
Oui, c'est pas très très stable du tout tout ça. Alors le soleil, on va le trouver sur les régions méditerranéennes, le sud des Alpes et le sud du Massif central. Ça, ce sera en permanence tout cet après-midi sans la moindre averse. En revanche, partout ailleurs, on risque d'avoir un ciel passablement chargé, des averses orageuses qui circulent d'ouest en est. Alors ça tournicote un petit peu, c'est un peu coincé entre le nord, la Normandie, le bassin parisien. Ça va bifurquer vers le Grand Est au fil des heures. D'une façon générale, il y aura toujours un petit peu plus de pluie au nord qu'au sud. Mais enfin, entre deux, on peut quand même espérer des éclaircies pas trop vilaines avec des températures effectivement de saison. 22 degrés à Cambrai cet après-midi, 23 à Nantes et Paris, 25 à Mulhouse et Agen, 28 degrés pour Grenoble, 31 à Toulon et 33 degrés à Nîmes.
Et ça va rester aussi instable cette semaine?
Ouais, et jusqu'à vendredi en fait, en tout cas pour une grosse moitié nord. Dans le sud, il y a deux jours d'instabilité, dans le sud-est notamment, entre lundi et mardi. Demain et mardi, c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu d'orage aussi par là-bas. Ensuite, pour tous les autres, jusqu'à vendredi. Alors encore une fois, on reste avec un régime d'averse. On ne va pas avoir le ciel plombé qu'on a connu là au début juillet. On va avoir à chaque fois des éclaircies entre deux, des températures qui vont être autour de 23-24 sur la moitié nord toute la semaine, 27 à 28 pour la moitié sud.
On va faire avec. Merci, ah oui. Valérie. Il est 13h03 sur RTL. Bon après-midi. Tout de suite, les voix du crime. Jérôme Florin revient sur l'affaire Pierrot le Fou.